Bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Christian Terra, je suis chargé de mission académique pour le développement du lycée de la Nouvelle Chance sur l'Académie de Lyon. Cette mission m'a été confiée en 2000 par le recteur Dubreuil qui venait d'arriver sur l'Académie de Lyon. J'avais proposé au recteur Dubreuil un dispositif pédagogique dit innovant pour des jeunes en rupture avec le système scolaire et qui souhaitaient y revenir pour reprendre un cursus pas nécessairement préqualifiant ou de remise à niveau, mais un cursus qualifiant, diplômant et de mise à l'emploi. Le recteur Dubreuil, par rapport à l'esquisse que j'avais fait de ce projet au mois de septembre 2000, m'avait donné son accord de principe en me donnant comme mission « Vous rêvez ce projet. Rêvez ce projet. Vous qui connaissez la culture, le milieu du système éducatif, vous apprécierez une telle consigne. » 3 mois après, je lui ai remis un dossier, un rapport, plus précis sur l'architecture pédagogique, plus précis sur les publics concernés, visés par ce dispositif. Il l'a accepté et m'a demandé de le mettre en place dès le mois de février 2001. Ce dispositif, il est très simple en fait. Il s'agit de proposer à des jeunes, comme je l'ai indiqué au préalable, sortis définitivement du système scolaire. On ne peut pas rentrer au lycée à Nouvelle Chance si... Ah, ça va se remettre tout seul. Si on n'avait pas sorti du système scolaire depuis au moins 1 an. Tout ça pour éviter les effets pervers du redoublement. C'est un système qui est basé sur une alternance hebdomadaire forte. C'est-à-dire on est 3 jours au lycée, 2 jours en entreprise. C'est un système qui est basé sur une pédagogie personnalisée, sans nier pour autant le cours magistral. C'est un mix. C'est un système qui aussi a innové dans le sens où il permet de nouer un partenariat qu'on n'avait pas jusqu'à présent avec les missions locales. C'est-à-dire qu'en mettant les missions locales comme partenaires institutionnels en termes de repérage des publics au cœur du dispositif, nous avons pu axer effectivement une population qui était sortie de nos établissements, qui était inscrite dans les missions locales, et à la faveur d'une enquête que j'avais menée parallèlement au rapport que je préparais pour le recteur Dubreuil sur ce qui deviendra le lycée Nouvelle Chance, j'avais observé sur les 25 missions locales du Grand Lyon qu'il y avait dans chacune d'entre elles une 30aine de jeunes chaque année qui souhaitaient revenir dans le système éducatif, mais qui souhaitaient y revenir pour passer un diplôme, repasser un diplôme, quelque part, d'après ce que me disaient les conseillers des missions locales, pour faire le deuil de l'échec scolaire et se montrer, après quelques années de galère ou quelques échéances préformatives ou de boulot intérim, qui ne les satisfaisaient pas par rapport à une projection qu'ils avaient à moyen terme de leur avenir personnel et professionnel, souhaitait donc revenir à l'école pour y passer un diplôme, mais pour avoir un métier, donc une qualification. Donc une 30aine de jeunes par mission locale sur le Grand Lyon, 25, ça fait 700 jeunes environ. Et donc ce dispositif qui s'appuie sur ce partenariat en termes de repérage des publics avec les missions locales, à l'époque avait beaucoup plu au recteur Dubreuil et à ceux qui lui ont succédé, dans le sens où ça mettait, si vous voulez, en place un chaînage entre différents acteurs, chacun dans ses spécificités, dans son identité, et en même temps, ça permettait de casser certaines fausses représentations que nous avions les uns et les autres, des uns et des autres. Et c'est vrai que le fait d'avoir les missions locales autour de la table pour échanger, discuter, affiner le projet, a permis à l'équipe pédagogique, je vais en parler, qui était concernée par ce dispositif, d'appréhender le travail des missions locales autrement que celle simplement de rustine sur une jambe de bois, comme disaient certains enseignants, et vice-versa, les missions locales d'appréhender le travail des enseignants un peu autrement, comme la résultante ou les acteurs de l'échec scolaire, social, par rapport auquel les missions locales étaient évidemment sollicitées par rapport aux jeunes qui venaient taper à leur porte sans solution. Je tiens à préciser que dans les missions locales, en tout cas sur le Grand Lyon, les missions locales ont en activité permanente pour chacun des conseillers à peu près entre 200 et 250 jeunes à suivre. Quand vous regardez qu'il y a à peu près 10 à 15 conseillers par mission locale, vous voyez le nombre de jeunes que les missions locales, dans un flux large, ont à gérer. Donc partenariat avec les missions locales, qui est un peu un axe sociétal qui nous permet, Éducation nationale, de travailler en partenariat avec d'autres partenaires, avec d'autres missions, en complémentarité. Alors ce lycée de la Nouvelle Chance, au niveau de son implantation, le recteur de l'époque, le recteur Dubreuil, m'a dit « Je ne vous donne pas le choix. Le projet me va parfaitement comme ça. Jeunes des missions locales, alternance forte, entreprise, accompagnement individualisé, pédagogie individualisée. Mais je ne vous donne pas le choix. Ça sera le lycée Magenta à Villeurbanne. Ce lycée étant, si vous voulez, un lycée à dominante tertiaire, formation tertiaire, donc qui fait des bacs professionnels, secrétariat et comptabilité. Dans le sens où cet établissement avait de la place, avait de la disponibilité au niveau de ses locaux, dans le sens où cet établissement venait d'être complètement rénové par la région, avec laquelle nous sommes aussi en partenariat, je m'en expliquerai aussi à quel niveau, et que ce lycée a posé une question d'identité par rapport à son devenir, puisque dans le cadre de la restructuration de la voie professionnelle au rectorat, à laquelle j'ai participé comme chargé de mission sur ce volet-là, nous regroupions un certain nombre de formations dans des lycées thématiques. Si bien qu'une des grandes, une des formations pilotes du lycée Magenta, qui était les costumes de théâtre, donc tout ce qui était textile, et qui travaillait beaucoup avec les compagnies de théâtre de la région, avait été enlevée de ce lycée pour être mis au lycée emblématique à Lyon des métiers du textile, le lycée Diderot. Et la sortie de cette formation emblématique du lycée Magenta avait créé un véritable traumatisme à l'intérieur de l'établissement, en termes d'identité de l'établissement, en termes de mission des personnels éducatifs, pédagogiques. Et donc le recteur Dubreuil m'a dit, au-delà du lycée de la Nouvelle Chance que je vous charge de mettre en place, je vous charge de réconcilier cet établissement avec lui-même, de redonner une autre image à cet établissement, de manière qu'il rentre dans une nouvelle dynamique. Voilà. Donc c'était une mission, je dirais, quelque peu délicate, parce que je vous cache pas que lorsque je suis arrivé en février 2001 pour présenter le projet lycée de la Nouvelle Chance à l'équipe pédagogique et à l'équipe administrative du lycée, donc c'était en février 2001, je ne peux pas dire que j'ai eu un accueil délirant. C'est le moins qu'on puisse dire, même au nom de la mission que le recteur m'avait confiée, en disant que c'était une mission qui ne sortait pas simplement de mon chapeau, que ce n'était pas simplement une volonté personnelle, un projet personnel, mais qu'il s'agissait bien d'une mission du service public, que cette mission avait été authentifiée, validée, négociée, paraffée par le recteur. Quand vous avez une cinquantaine de personnes devant vous, qu'on vient de dépecer de certaines formations qui étaient le fleuron de l'établissement, votre discours plein de bonnes intentions, plein de projets, plein de valorisation, ne passe pas nécessairement très bien. Et ce qui est tout à fait logique, et tout à fait acceptable et entendable. Donc si vous voulez, et cette mission dans un établissement qui n'était pas nécessairement un établissement volontaire, avec des équipes pédagogiques, entre parenthèses, entre guillemets, militantes. C'est-à-dire des équipes pédagogiques lambda. Et j'avoue que le défi m'a paru très intéressant à relever. Moi qui viens, alors mon cursus, moi je suis prof de sciences éco, sciences sociales, j'ai enseigné dans dans les sections ES, qu'on dit aujourd'hui, première, terminale. Et puis je suis venu rapidement conseiller en formation continue, donc j'ai travaillé dans les Greta. Et en 2000, j'ai demandé à être renommé au rectorat pour faire bénéficier la culture de 25 ans de conseiller en formation continue, la formation initiale. Ce qui était au départ, lorsque dans les années 80, on cherchait des volontaires pour la formation continue, ce qui était dans notre agenda, dans notre feuille de route. On nous avait toujours dit, ce que vous faites en formation continue dans le cadre du rapprochement de l'éducation nationale avec les entreprises, avec les demandeurs d'emploi, avec les jeunes en grande difficulté dans les banlieues, écoutez, ce travail doit servir de réinvestissement pour la formation initiale à l'avenir. J'ai jamais oublié cette lettre de mission et cet agenda, si bien que lorsqu'après 20 ans de bons et loyaux services dans la formation continue, dans les Greta, j'ai considéré qu'à un moment donné, non pas que j'avais fait le tour de la question, mais qu'il était important, à mi-chemin de ma carrière, de voir comment il était possible de faire transpirer dans le système éducatif initial des problématiques, des cultures, telles que celles que nous avions élaborées en laboratoire, en formation continue, autour de la pédagogie individualisée, des unités capitalisables, des remédiations, des remises à niveau, des accompagnements sociaux, etc., etc., avec les jeunes les plus en difficulté. Je dis ça par rapport au lycée où j'ai dû mettre en place ce dispositif, parce qu'il m'est apparu intéressant d'être dans un lycée donc lambda, normal, et que c'était l'occasion de sortir d'une logique de l'expérimentation, d'une logique de petits îlots où on fait des expérimentations qui réussissent souvent très bien, et il y en a de multiples et de très 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 intéressantes, mais c'était l'occasion d'ouvrir, j'allais dire, de manière un peu systémique, ce qui était de l'ordre souvent expérimental et ponctuel dans tel ou tel endroit, et qui souvent tenait à la personnalité de telle ou telle personne. Et donc j'ai relevé dans cette mission que m'avait confiée le recteur à l'époque, j'y ai vu une mission plus large que simplement mettre en place un lycée expérimental ou une démarche expérimentale, mais voir comment un lycée lambda pouvait s'approprier quelque chose qui au départ pouvait les déranger, pouvait les gêner, pouvait les déstabiliser, pouvait les rendre réticents par rapport à une perspective de changement qui les sortait un petit peu de leur quotidien, de leurs habitudes, de leur fonctionnement. Donc ce défi a été relevé progressivement, je dirais de manière homéopathique. Et j'ai procédé de la manière suivante. 2001-2002, rentrée scolaire 2001-2002, on met en place le dispositif lycée de la Nouvelle Chance, mais sans élèves. On le met en place de manière expérimentale en constituant des groupes pédagogiques, équipes administratives, équipes financières. Donc on mobilise les équipes, on commence à rentrer dans un process d'adhésion au projet, sans élèves, de manière à pas mettre une tension, une pression forte. Je vais pas y arriver, je sais pas faire, j'ai pas les outils. Et dans cette année, je dirais sans élèves, on a aussi travaillé sur la formation à la pédagogie personnalisée. On disait individualisée à l'époque. Donc on a travaillé aussi avec les services que je connaissais du CAFOC, le service de la formation continue, le centre académique de formation continue. Et 18 journées de formation sur l'année ont été proposées à tous les enseignants pour pouvoir rentrer dans une logique de pédagogie personnalisée. Ça a permis de casser certaines représentations là aussi. Ça a permis de faire émerger un certain nombre de frustrations par rapport aux équipes pédagogiques ou par rapport à certains enseignants qui avaient eu dans leur histoire des difficultés, des échecs par rapport à des choses qu'ils avaient tentées, qui n'avaient pas abouti, à qui on n'avait pas donné confiance, qui étaient réticents par rapport à ce projet, du genre « Monsieur Terrasse, vous êtes bien gentil, on vous croit sur parole ». Mais nos échecs personnels, professionnels, dans les années précédentes, ont été tels que on a des difficultés à vous croire et voilà, comprenez nos réticences. Donc il y avait à lever, si vous voulez, aussi en même temps un certain nombre de frustrations, un certain nombre de déceptions, un certain nombre de difficultés dans le rapport à l'institution, tout simplement, par rapport aux enseignants, qui fait que si on ne prend pas en compte une démarche d'innovation par rapport à la culture ambiante qui vous est proposée, par rapport à ce que les gens vous renvoient, eh bien, on risque de passer à côté. Et je crois que d'avoir mis en place des cellules d'écoute pour débroussailler, pour défricher, pour mesurer, j'allais dire, parfois le mal-être de certains enseignants, a permis pendant cette année-là, effectivement, de clarifier un certain nombre de choses, d'apaiser aussi la résistance au changement en pacifiant que le changement, c'était pas nécessairement une remise en question de la personne même de l'enseignement et de l'enseignant et de ses pratiques, mais que c'était un chemin nouveau qu'il nous fallait prendre au nom du service public par rapport à des réalités auxquelles nous ne devions pas nous soustraire. Et notamment, la difficulté qui était la nôtre, c'était comment raccrocher des jeunes qui étaient passés dans le système scolaire, qui en étaient sortis sans solution, qui en étaient sortis avec des conflits, avec des violences, ou tout simplement sur la pointe des pieds, qu'on avait vu disparaître, plus jamais revenir. Quelle était notre mission à nous, à réactualiser, à rénover par rapport à ce constat, c'est-à-dire qu'on a une centaine de mille de jeunes qui, chaque année, sortent du système sans solution. Alors, je sais bien que ces chiffres prêtent à discussion, mais on a quand même un volant, grosso modo, qui tourne autour de ça, et que, en tant que mission de service public, on ne peut pas ne pas aborder et affronter, et je dirais, pas simplement dans le cadre de discours incantatoires, mais dans le cadre de pratiques qui permettent de mettre en place des leviers de changement et de proposer des solutions. Alors je crois que ce travail en immersion, sans élèves, de préparation à la formation, à l'architecture du projet, le fait de faire venir les missions locales, de travailler avec les missions locales tous les deux mois pour comprendre le travail des missions locales, les difficultés qu'elles rencontraient, les publics qu'elles rencontraient, et du coup de travailler aussi sur les représentations des publics. Parce que les représentations des publics, c'est-à-dire, M. Terrasse, vous allez chercher des jeunes qui sont sortis du système scolaire, on les connaît bien, on n'a jamais pu faire quoi que ce soit avec eux, ils se mettent, pardonnez-moi l'expression, le bazar dans la classe, quand c'était pas la violence, ou ils s'endormaient, bref, on va retrouver ce type de public un an, deux ans après qu'il soit sorti, non, merci, on a déjà donné. Effectivement, c'est des choses à entendre. Mais effectivement, quand les missions locales ont parlé de ce public, ce qu'il était en devenir, ce qu'il cherchait, comment il tâtonnait à travers des préformations, des préqualifications, du boulot intérim, de certaines missions type CDD, eh bien, du travail qu'il pouvait faire sur la violence, sur la socialisation, eh bien, on a pu, à la faveur de ces échanges très très nourris, on a pu casser certaines représentations. Je dis pas toutes, mais en tout cas, les grandes représentations qui faisaient violence pour les enseignants, on a pu les casser au bout d'un an. Et pour l'année 2002-2003, amorcer la présence d'une promotion, on a démarré tout simple avec 24 jeunes, amorcer donc, si vous voulez, l'accueil de ces 24 jeunes dans un climat apaisé, serein, avec des outils et... Je dirais, je suis l'adepte aussi que le changement se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il se fait étape par étape, escalier par escalier, step by step, comme on dit aux États-Unis. Donc on commence à 24 et on verra, on fera le point en cours d'année, savoir si on monte à 36. Et puis après on verra si on monte à 48, etc., etc. Donc on a monté progressivement le dispositif en puissance autour d'enseignants qui, au cours de l'année, avaient montré finalement une adhésion, un intérêt. J'ai envie de me lancer. Donc, il y avait 4 à 5 enseignants qui étaient prêts à démarrer le dispositif. Donc, un petit noyau dur sur lequel j'ai pu m'appuyer et qui a pu amorcer, si vous voulez, ce dispositif. Ce dispositif, aujourd'hui, a 84 jeunes qui sont en formation sur le lycée Magenta. Mais le lycée Magenta est un lycée plateforme, je vais vous expliquer. C'est-à-dire que le dispositif ayant donné satisfaction jusqu'à il y a 3 ans, autour des formations tertiaires, bac professionnel, donc je répète, secrétariat et bac professionnel, comptabilité, ce dispositif ayant donné satisfaction, j'avais proposé au rectorat de voir comment on pouvait mettre en place mettre ce dispositif en réseau. C'est-à-dire toujours sortir de la logique. On a un établissement expérimental, qui est plus expérimental puisque ça fonctionne, mais voir comment, de manière systémique, d'autres établissements pourraient profiter de cette culture, de l'accompagnement personnalisé, de l'alternance forte avec les entreprises, etc., etc. Voir comment on pourrait mettre ce dispositif en réseau. Et donc, il y a 3 ans, ce dispositif s'est mis en réseau sur 2 autres établissements sur le Rhône. D'abord, le lycée Alfred de Musset à Villeurbanne, sur des filières technologiques différentes, parce que c'était aussi ça le souhait. On est sur des filières administratives au lycée Magenta. Il faut qu'on trouve, ça serait intéressant de trouver des filières industrielles ou technologiques différentes, de manière à ouvrir le champ de proposition de formation de l'éducation nationale par rapport à cette mission de service public, par rapport à des jeunes décrochés et à raccrocher. Donc on a trouvé au lycée Alfred de Musset une équipe partie prenante sur les métiers de la logistique et du transport, sur les métiers de l'électrotechnique et sur les métiers de la maintenance industrielle. Et puis, depuis un an, depuis la rentrée dernière, on est au lycée Les Canuts à Vaux-en-Velin sur une formation qui s'appelle formation bac professionnel vente, force de vente, c'est-à-dire on prépare des commerciaux. Donc le lycée La Nouvelle Chance aujourd'hui est sur 3 établissements, l'établissement plateforme Magenta, 70 élèves, 70 stagiaires et 14 stagiaires sur les 2 lycées partenaires qui sont le lycée Alfred de Musset et le lycée Les Canuts à Vaux-en-Velin. Alors il faut savoir que le dispositif, il a été monté aussi sur le fait qu'il n'était pas possible pour des jeunes qui avaient quitté le système scolaire et qui voulaient y revenir après. En moyenne, les jeunes qui ont quitté le système scolaire chez nous, c'est de l'ordre de 2, 3, 4 ans. La moyenne d'âge des jeunes que nous avons, c'est 20 ans, 21 ans. On n'a pas beaucoup de jeunes de 18 ans, 19 ans. La plupart des jeunes ont 20 ans, 21 ans, et on a pas mal de jeunes aussi de 23, 24 ans. Donc, il était hors de question par rapport à cette césure entre la sortie du système éducatif et scolaire et leur retour chez nous, il était hors de question que ces jeunes-là aient le statut d'élève, de simple élève. Pour la simple raison que pour des raisons financières, s'ils reprenaient des études, notamment sur 2 ans, il fallait un minimum matériel, financier, pour que ces jeunes-là puissent envisager de s'inscrire dans la durée par rapport à un tel projet, et je le dirai tout à l'heure, qui est quand même un investissement très difficile, très compliqué, surtout que nous avons un certain nombre de jeunes mères de famille qui ont souvent 1, 2, voire 3 enfants, et qui, au prix de beaucoup de sacrifices et beaucoup de choix personnels, familiaux, choisissent de rentrer dans un projet qui n'est pas simple tous les jours. D'où le partenariat, c'est l'autre partenariat avec la région Rhône-Alpes. Région Rhône-Alpes, donc toc toc, bonjour, on a ce projet, on aimerait donc faire bénéficier ces jeunes-là d'une rémunération, juste elle minimale, pour qu'ils puissent rentrer dans ce process. Et donc nous avons eu, dès le départ à la région, c'était à l'époque Madame Comparini qui était présidente de la région, dans les années 2000-2002, et donc nous avons eu un accueil très favorable par rapport à le vote d'une subvention pour la rémunération des stagiaires. Donc chacun de nos stagiaires sont rémunérés à hauteur de 340 euros par mois. Voilà. Pendant 9 mois, c'est-à-dire du mois de octobre au mois de juin, du 1er octobre à fin juin. Pour les stagiaires, pour les jeunes qui ont travaillé dans la césure, pendant la césure qui les a séparés de notre système, eh bien, ceux qui ont travaillé au moins 940 heures sur 12 mois, eh bien, ils ont le double. Ils touchent 650 euros. Et on a obtenu aussi de Pôle emploi, les ACEDIC autrefois, on a obtenu que des jeunes qui avaient encore leur droit ACEDIC, qui puissent en bénéficier dans le cadre de cette formation, sans passer par une rémunération région, et que cette rémunération ACEDIC puisse être relayée lorsqu'ils arrivaient en fin de droit par une rémunération région. Donc c'est un travail, si vous voulez, d'approche des institutions hors éducation nationale, qui est un travail de longue haleine, qui est un travail de persuasion, qui est un travail très technique, qui est aussi, je dirais, un travail très politique, dans le sens noble du terme, et qui fait que associer la région à ce dispositif au niveau de la rémunération a été quelque chose d'assez considérable au niveau de la crédibilité par rapport aux équipes enseignantes, par rapport aux missions locales, par rapport aux entreprises, de pouvoir dire, eh bien écoutez, l'éducation nationale est en partenariat sur ce dispositif-là avec la région. Voilà. Alors, le fait que la région nous aide depuis, et la région n'a jamais changé de politique à ce niveau-là depuis 10 ans maintenant, puisque le lycée Nouvelle Chance existe depuis 10 ans, effectivement. La région n'a jamais changé de politique par rapport au lycée de Nouvelle Chance. Je dirais qu'elle nous encourage aujourd'hui à le développer sur les autres départements de l'Académie, notamment la Loire et l'Ain pour ce qui concerne l'Académie de Lyon. Et nous sommes en ce moment en train de travailler avec le rectorat et avec la région pour voir comment nous pourrions mettre en réseau le lycée de la Nouvelle Chance qui est sur le Rhône aujourd'hui, dans la Loire et dans l'Ain. On a déjà fait des repérages, des sondages, on voit à peu près où on va aller, sur quel public on va aller. Donc on est dans une dynamique, je dirais, systémique, comme je disais au départ, qui est tout à fait intéressante. Alors, concernant, bien entendu, c'était la question que me posaient toujours les enseignants, avec quels moyens on va fonctionner par rapport à ce dispositif. Alors, outre les moyens région, pour la rémunération des stagiaires, il est bien entendu que les dossiers Fonds social européens m'ont beaucoup aidé pour l'innovation pédagogique. C'est-à-dire que si je n'avais pas eu le Fonds social européen, et Dieu sait si les fonds sociaux européens sont des contraintes en termes de montage budgétaire, en termes d'écriture, de projet, en termes de contrôle, de dépenses, qui sont très exigeants, très fastidieux, mais qui sont quand même très passionnants parce que ça permet de formaliser une architecture pédagogique et de ne pas rester simplement dans l'intentionnel, dans le compassionnel, dans l'idéal. Ça permet de mettre des mots sur des objets, sur des personnes, sur des identités, sur des structures. Et donc ce travail un peu fastidieux d'écriture de projet FSE permet donc d'avoir des moyens financiers qui aide à l'innovation pédagogique, et notamment la formation des personnels à la pédagogie individualisée, la pédagogie personnalisée, et notamment au lycée Magenta, on a mis d'entrée de jeu, et ça c'était un peu le projet de départ avec le recteur Dubreuil, je lui avais dit, si on met en place ce projet lycée à Nouvelle Chance, notamment sur un lycée à dominante tertiaire, métier du tertiaire, il me semblerait pertinent que ce dispositif croise les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ce qu'on appelle les NTIC à l'époque. Alors il avait trouvé que c'était tout à fait important, effectivement, de travailler sur ce créneau-là, d'équiper à la fois les jeunes par rapport à leur formation et les équipes enseignantes de logiciels qui ont cours dans les entreprises. Mais là, je vous parle de 2002-2003, les choses ont beaucoup évolué depuis. Mais en même temps, de travailler au niveau des outils pédagogiques avec des outils qui croisaient les nouvelles technologies. Et c'est la raison pour laquelle, dès 2004, on a mis en place, au niveau de la pédagogie personnalisée, un outil qui commence à bien marcher aujourd'hui, je dis bien qu'il commence à bien marcher aujourd'hui, qui est déjà fonctionnel sur le lycée Magenta, qui va commencer à l'être sur les autres établissements. C'est un outil que j'appelle e-learning, une plateforme électronique d'apprentissage qui permet, si vous voulez, un plus à la pédagogie personnalisée et qui en aucun cas, je le précise, et je le précise chaque fois que je présente ce projet, qui en aucun cas ne se substitue aux enseignants. Il est un plus que les enseignants ont à leur disposition pour affiner le parcours pédagogique personnalisé des jeunes qui leur sont confiés. Donc cette pédagogie personnalisée dans le cadre du e-learning a demandé un énorme travail d'investigation, de création, d'innovation. C'est la raison pour laquelle on a travaillé avec un troisième partenaire, un partenaire industriel, un partenaire technologique, une société d'ingénierie informatique, qui s'appelle la société Selling, qui travaille avec nous depuis 8 ans bientôt, et à qui j'ai demandé de préparer une architecture en vue de l'apprentissage e-learning. J'avais fait quelques essais avec d'autres expériences dans ce domaine-là, avec l'université notamment, mais par rapport à des niveaux 4, l'e-learning de l'université ne convenait pas à la problématique et à la culture des jeunes que nous avions. C'est la raison pour laquelle la société Selling, à qui j'avais passé commande, a vraiment travaillé en phase avec nous sur une commande très précise de nos besoins très précis par rapport à un public très précis, à un niveau très précis. Donc il s'agit en aucun cas d'une commande qui est arrivée de l'extérieur et qui nous a été imposée, dans laquelle il fallait qu'on rentre. C'est-à-dire que la société a travaillé sur une architecture technologique qui correspondait à notre besoin précis. Donc cette architecture pédagogique ayant été faite, on s'est aperçu qu'à ce moment-là, vous savez, les nouvelles technologies, c'est toujours, dans les représentations, c'est toujours un peu magique. À partir du moment où on vous a mis en place une architecture technologique, on a toujours la représentation qu'en appuyant sur le bouton, ça va marcher, quoi. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que l'architecture pédagogique ayant été mise en place sur le plan informatique par la société, mais après, il a fallu, excusez-moi l'expression triviale, il a fallu remplir les tuyaux. Et remplir les tuyaux, c'est-à-dire faire de la production pédagogique. Faire de la production pédagogique par thème, par matière. Il a fallu aussi faire de la transversalité à travers les différentes matières, décloisonner. Donc, si vous voulez, quand on travaille sur du e-learning, on travaille sur une remise en question, quelque part, des pratiques pédagogiques habituelles. Et ça s'est fait, je dirais, dans le cadre de groupes de travail mensuels, par matière, avec des regroupements trimestriels, avec des points avec la société sur le plan technologique, au niveau de la prise en main, parce que ça n'allait pas toujours, parce qu'il y avait des problèmes, il y avait des dysfonctionnements, ce qu'ils avaient pensé ne fonctionnait pas si bien que ça au niveau de la pratique. Donc, si vous voulez, cet aller-retour permanent entre les techniciens, les ingénieurs de la société Selling, les enseignants sur le terrain qui produisaient et qui mettaient en ligne et qui testaient avec des stagiaires comment ça fonctionnait, enfin ce feedback permanent, et puis le relais que moi, je pouvais faire entre les deux, eh bien, a donné aujourd'hui, si vous voulez, un outil que je considère, je dis pas que à titre personnel, mais que unanimement l'équipe pédagogique à Magenta et sur les équipes Alfred de Musset et les Canus qui commencent à le prendre en main aujourd'hui, est un outil qui est à la fois séduisant, à la fois performant et à la fois très 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 intéressant pour appuyer le travail des enseignants en cours. Donc si vous voulez, ce travail de pédagogie et de plateforme électronique n'aurait pas pu voir le jour si je n'avais pas eu les moyens financiers du FSE. C'est évident. Donc si vous voulez, un dispositif qui fonctionne en partenariat sociaux avec mission locale, partenariat politique financier avec la région, partenariat institutionnel européen pour l'innovation pédagogique avec le FSE, et bien entendu, si le rectorat n'avait pas été partie prenante et n'avait pas affiché une volonté politique forte par rapport à ce projet, bien entendu, que je serais resté à quai et que j'aurais pas fait grand-chose. Et c'est vrai que s'il a fallu, j'allais dire, là aussi, pardonnez-moi l'expression, ramer pour avoir un certain nombre de postes pour mettre en place le lycée de Nouvelle Chance, les trois premières années, je peux dire qu'aujourd'hui, nous avons des postes qui permettent de pérenniser ce dispositif d'une année à l'autre. Parce que la question, c'est pas simplement de mettre en place des choses expérimentales, c'est essayer d'avoir une vision à moyen terme, c'est-à-dire ce que je mets en place à titre expérimental, si c'est validé, si ça fait ses preuves, comment je fais pour que ça rentre dans la durabilité, dans la pérennisation, et comment ça fait aussi autorité pour que ça fasse réseau ailleurs. Donc c'est vraiment une vision systémique par rapport à l'expérimentation que ce projet essaye d'avoir et essaye de tendre. Et ce projet ne peut pas fonctionner si on décrète l'expérimentation comme ça. Il faut un accompagnement au quotidien en permanence pour que ça puisse fonctionner. Moi, si je suis chargé de mission au quotidien dans les établissements en question, c'est parce que c'est une manière aussi, comment dire, de créer du lien entre le rectorat, l'autorité académique et les équipes sur le terrain, et le rôle important que jouent les proviseurs en termes d'animation sur place au niveau des équipes. S'il n'y a pas ce lien permanent de partenariat intra-institutionnel entre le rectorat, le proviseur et les équipes pédagogiques, mais si ce n'est pas un lien de proximité, d'accompagnement au changement, de débroussaillage des questions, Souvent, je dis que j'ai le rôle d'un plombier dans les coulisses, parce que parfois, ça marche pas. Parce que parfois, à la région, on dit oui, mais bon, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Donc, il faut réécrire le projet. Avec les missions locales, parfois, il y a des problèmes. Donc, il faut y aller, il faut voir. Donc, il y a un travail d'accompagnement au changement, de débroussaillage, de défrichage, qui est nécessaire pour que on puisse préserver l'établissement, j'allais dire, de secousses qui dérangeraient, gêneraient dans la concentration par rapport à la mission. Et donc ça, c'est le rôle des chargés de mission. C'est à la fois passionnant, c'est à la fois exigeant, mais s'il n'y a pas ce rôle d'accompagnement au quotidien, de relation de proximité avec le chef d'établissement, avec les équipes pédagogiques en place, eh bien le changement, il se fait très difficilement. On ne peut pas faire des réformes uniquement par décret ou parce qu'un jour un recteur a décidé « Tiens, ça serait bien de faire un lycée de nouvelle chance à Magenta, ça c'est génial, il faut y aller ». Si vous accompagnez pas, je le répète, le changement au quotidien, si vous ne rassurez pas, si vous ne formez pas, si vous ne débroussaillez pas les choses, si vous ne clarifiez pas les choses à un moment donné, eh bien il y a une déperdition d'énergie, il y a une déperdition, je dirais quelque part, de la foi, de la confiance dans le projet et dans, je dirais quelque part, dans ceux qui vous envoient le message de faire le job. Donc cette mission de proximité, elle est capitale pour réussir ce genre de projet. Donc partenariat mission locale, partenariat région, partenariat FSE. Bien entendu, le rectorat met des moyens qui sont relativement importants, puisque sur 84 jeunes, on a à peu près 6 postes enseignants et un poste de coordonnateur qui accompagne, lui, au quotidien, la gestion des présences, des absences, etc., etc., l'impulsion au niveau des équipes pédagogiques, le rendu des produits, des productions pédagogiques par rapport au e-learning, etc., etc. Et puis, bien entendu, un partenariat avec les entreprises. C'est-à-dire que ce dispositif, il existe aussi parce que nous avons un partenariat fort avec les entreprises. À partir du moment où vous avez une formation qui est basée sur une alternance hebdomadaire forte, 3 jours lycée, 2 jours entreprise chaque semaine. Et ça, ça a été une volonté dès le départ, par rapport au public qui était le nôtre, par rapport au travail qu'on a pu faire avec les missions locales. Le rapport à la règle, et vous le savez, vous qui travaillez dans le système éducatif, le rapport, ou périphériquement dans ce domaine-là, le rapport à la règle, il est capital par rapport à ces jeunes-là. À la fois la règle dans l'établissement et à la fois la règle dans l'entreprise. Et on a voulu, quelque part, ritualiser ce rapport à la règle par rapport à une fréquence lycée 3 jours chaque semaine, entreprise 2 jours chaque semaine. Pour les jeunes, ritualiser cette fréquence-là de manière hebdomadaire. Et à la fois par rapport aux entreprises, on a souhaité que les entreprises n'accueillent pas les jeunes simplement dans le cadre d'une espèce de dynamique de stagite aiguë, mais dans le cadre d'un véritable poste de travail qu'on prépare sur l'année à hauteur de 2 jours par semaine, du mois d'octobre au mois de juin, et pas simplement quelqu'un qui vient une semaine de temps en temps, tous les mois et demi ou tous les 2 mois, et qu'on va accueillir et qu'on va faire un boulot, artificiel et qui ne correspond pas au référentiel professionnel du bac professionnel. Donc on a voulu professionnaliser le stage en entreprise dans le cadre à la fois d'une ritualisation, dans le fois d'un rapport à la règle, c'est-à-dire rapport à l'autorité hiérarchique, c'est-à-dire d'un chef de service, et à la fois que le poste de travail soit professionnalisant par rapport à l'entreprise, parce que les exigences que nous avions, équipe pédagogique, par rapport au référentiel professionnel du bac pro, nous paraissaient indispensables et pas négociables. C'est-à-dire que toute tâche dans l'entreprise qui ne correspond pas au référentiel professionnel du bac professionnel n'est pas acceptable. D'où les visites en entreprise, une fois par mois, des enseignants qui ont 2 stagiaires en charge, sans compter les coups de fil réguliers par rapport à telle ou telle absence, justifiée ou pas justifiée,
ou si l'enseignant a décidé qu'il avait besoin d'avoir un complément d'information par rapport à l'attitude du jeune en classe, qui lui paraissait pas toujours très bonne, etc. Voilà, vérifier si en entreprise ça se passait autrement, etc. sur la fréquence autre que la fréquence mensuelle qui est la leur. Donc chaque enseignant a deux jeunes en charge qu'il visite régulièrement avec le tuteur de l'entreprise et avec le référentiel pour lister les tâches que le jeune accomplit dans l'entreprise. Je vais dire des choses bateau, mais des jeunes garçons ou des jeunes filles qui sont à la photocopieuse en permanence, qui sont sur des tâches au standard permanent, et je dis pas que ces tâches sont dégradantes, mais il y a une systématisation par rapport à ces tâches qui, à un moment donné, fait que nous, on va voir l'entreprise et on dit « c'est pas possible ». Nous, on forme des jeunes pour qu'ils aient une qualification, pour qu'ils aient un diplôme et pour qu'ils aient un accès à l'emploi dans les 3 mois qui suivent la sortie de ce dispositif. Donc il est hors de question d'utiliser ces jeunes-là comme une main-d'œuvre ponctuelle, factice, pour faire plaisir, etc., etc. Voilà. Donc si vous voulez, un partenariat fort avec les entreprises, ça n'a pas été simple au départ, parce que pour trouver presque une centaine d'entreprises par rapport à des jeunes en gros qui viennent tous des zones sensibles de la région lyonnaise, Vaux-en-Velin, Vénissieux, Saint-Fons, j'aime pas dire ça, mais c'est le constat, c'est la réalité sur le terrain par rapport à des entreprises. Notamment, nous travaillons dans un tissu de PME. Et les représentations, là aussi, sont très dures. Et les représentations, des entreprises, des petites entreprises, par rapport à des jeunes qui sont sortis du système sans solution, qui arrivent des missions locales, qu'on valorise dans le cadre d'un dispositif de remédiation, etc. On a beau dire tout ça, n'empêche que vos jeunes de banlieue, c'est bien, mais on n'est pas là pour faire les assistantes sociales. On n'est pas là pour récupérer les échecs que votre système éducatif ne sait pas conjurer, ne sait pas juguler. Enfin, on a droit à toutes sortes, et je dirais c'est logique, on est dans l'immersion complète de notre société, et forcément, les représentations, les réactions, les systèmes de défense, les refus, sont au rendez-vous. Et il s'agit d'affronter ça, j'allais dire sereinement, en remettant les choses en place, en dédramatisant, en négociant. Donc pas simple de convaincre les entreprises d'adhérer à ce type de projet. Je crois que ce qui a enlevé le morceau, c'est le fait que le fait d'avoir deux jeunes, d'avoir des jeunes 2 jours par semaine tout au long de l'année a été une entrée très intéressante pour l'entreprise parce que ça permettait effectivement l'organisation d'un poste de travail en tant que tel et de pouvoir compter effectivement sur quelqu'un qui leur revient pas très cher, en parenthèse. Deuxièmement, nous avons travaillé aussi par rapport à un projet, Lycée Nouvelle Chance, lutte contre les discriminations. C'était l'occasion aussi de travailler sur le fait que on n'embauche pas quelqu'un ou on prend pas quelqu'un sur la politique du faciès. Donc ça a été aussi un travail en tension qui a été très exigeant, qui aujourd'hui est, je dirais, quasiment réglé dans toutes les entreprises où on va. C'est-à-dire qu'on n'a plus de problème de discrimination par rapport à tel ou tel jeune de telle ou telle origine. Mais ça a été un travail de longue haleine pendant 3-4 ans. Là, ça a été un partenariat que nous avons mené avec la mairie de Villeurbanne dans le cadre d'un autre projet européen du FSE sur la lutte contre les discriminations. Et on a pu travailler dans le cadre de ce projet-là sur la lutte contre les discriminations, notamment dans les entreprises. Donc ce partenariat avec les entreprises nous permet aujourd'hui d'avoir un réseau de 100 entreprises fidélisées, je dis bien fidélisées, qui sont demanderesses chaque année. Par rapport aux jeunes que nous formons et que nous accueillons. Et je suis heureux de voir que dans les 2 établissements partenaires du lycée de la Nouvelle Chance à Magenta, lycée Les Canuts et le lycée Alfred de Musset, les entreprises jouent parfaitement le jeu et sont aussi très intéressées par cette dynamique et ce partenariat. Et je dirais ce rythme d'apprentissage. Les tuteurs des entreprises considèrent que cette manière d'aborder l'apprentissage nouvelle dans le cadre d'une relation de proximité, je redis, dans le cadre d'une relation de proximité, permet de valoriser les équipes professionnelles des entreprises et donner du sens donc à l'accompagnement, je dirais, citoyen des entreprises par rapport aux jeunes qui sont en grande difficulté. Alors pour finir, ce dispositif, je dirais, qui est finalement très simple, qui demande beaucoup d'énergie, mais qui est très simple au niveau de son fonctionnement, est un dispositif qui a fait ses preuves au niveau des résultats, puisque 90% des jeunes qui sortent du lycée de la Nouvelle Chance réussissent le bac professionnel. C'est une moyenne sur les 8-9 dernières années. Et 90% des jeunes trouvent un emploi dans les 2 mois qui suivent leur sortie du lycée de la Nouvelle Chance, et je dis un emploi qualifié dans le cadre d'un CDD ou d'un CDI. Et dans le cadre de ces 90% qui trouvent un emploi, les 10 autres pourcents le trouvent pour différentes raisons dans les 6 mois qui suivent leur sortie. C'est bien que dans 6 mois, tout le monde trouve un travail qualifié. Et ce qu'il faut observer, c'est que les jeunes qui ont réussi le bac professionnel, qui trouvent un emploi, la moitié des jeunes qui trouvent un emploi poursuivent leur formation dans le cadre d'un BTS en alternance, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Donc, si vous voulez, c'est un dispositif qui marche en termes de réussite au niveau de l'emploi, placement à l'emploi, qui marche en termes de réussite au diplôme, parce que les jeunes, je ne l'ai pas assez dit, mais leur obsession, c'est d'avoir le diplôme pour faire le deuil de l'échec scolaire qu'ils ont vécu et qui est souvent traumatique. Et c'est aussi une réussite dans le cadre de la socialisation de ces jeunes. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui arrivent, qui sont cassés, et je n'ai pas assez parlé du travail d'accompagnement social humain, qui n'est pas notre cœur de métier, mais que nous devons faire aussi, que nous ne faisons pas directement, puisque je le fais avec des compagnies de théâtre. Il y a des compagnies de théâtre qui viennent chaque mois et qui travaillent sur l'expression collective, sur l'expression d'une parole collective, sur l'expression d'une parole personnelle, sur l'expression... il y a deux compagnies de théâtre, une qui travaille plus sur l'expression collective d'une parole et une autre qui travaille plus sur l'expression personnelle de la parole, sur la respiration, sur ce qu'on appelle le développement personnel. Donc ce travail d'accompagnement humain, d'accompagnement personnel, eh bien, me permet de dire que ce dispositif réussit pas simplement sur le plan quantitatif, ne réussit pas simplement sur le plan des diplômes ou sur le plan professionnel, il réussit sur le plan de la socialisation et de l'estime de soi. On a des jeunes qui nous disent « Vous nous avez réconciliés avec nous-mêmes et vous nous avez réconciliés avec la société ».